Bien, alors bonjour à tous, on est ravis de pouvoir nous entretenir un petit peu avec François Froideval à l'occasion de ses Utopiales 2017, et de parler un petit peu de son travail, éventuellement de ses projets par la suite. On va peut-être pas revenir sur votre maintenant longue carrière et sur ce que vous avez fait, mais donc, histoire de remettre un peu les choses, quelles ont été les étapes les plus marquantes pour vous, si vous revenez un petit peu en arrière, très rapidement, ou plus longuement, c'est comme vous voulez.
Qu'est-ce que tu entends par marquante ?
Bah, il y a peut-être des éléments qui ont un peu jalonné aussi votre carrière et qui restent peut-être plus marquants que d'autres.
Bah, tu sais, c'est comme des Lego, hein. Tu mets une brique, t'en mets une derrière par-dessus, t'en mets une derrière, et puis à un bout d'un moment, bah, t'as un édifice, quoi. Est-ce qu'il y a certaines briques qui ont été plus importantes que d'autres ? Oui, forcément. Mais il n'y a pas une brique qui n'est pas importante. Mm-hmm. Tu vois, donc, c'est pas. Un des trucs les plus marquants, c'est quand j'ai été bosser aux États-Unis pour Gigax, ou des choses comme ça. Mais lancer le jeu en France, c'était marquant aussi. Lancer Casus Belli, c'était marquant aussi. Lancer Jeux et Stratégie, c'était marquant aussi. Enfin, le jeu et Stratégie, c'est pas moi qui l'ai lancé tout seul, mais collaborer au premier numéro, c'était sympa aussi, tu vois. C'est vraiment une succession de choses différentes. Quand j'ai commencé la BD, c'était sympa aussi. Quand j'ai fait des jeux micro, c'était sympa aussi. Tout ça, c'est marquant. Qu'est-ce qui est le plus marquant ? Je sais pas, ton premier chagrin d'amour, peut-être, pas forcément ta vie professionnelle, tu vois.
Et donc, au niveau, il y a eu du jeu de rôle, il y a eu un peu de jeux vidéo aussi. Il y a eu. Donc, le jeu est aussi une part
bah,
vraiment.
J'ai commencé comme ça, en fait. J'ai commencé comme conseiller en jeu chez Descartes après avoir lu le hors-série de Sciences et Vie, là, qui amenait le lancement du club jeu Descartes avec Peter Watts. Alain Ledoux avait bossé là-dessus aussi. Alain Ledoux cherchait, quand j'ai bossé pour. Peter Watts qui m'a envoyé chez Jeux Descartes. J'ai envoyé chez Jeux Descartes. Envoyé un monsieur en lui disant « Vous ne le savez pas encore, mais vous avez besoin de moi. » Il m'a regardé amusé en me disant « Ah bon, pourquoi ?» J'ai expliqué, il m'a dit « Effectivement, j'ai besoin de vous, donc je vous prends. » Et puis après ça, bah, je suis passé voir Alain Ledoux qui, lui, montait un magazine sur le jeu. Jeu Stratégie, c'est moi qui ai trouvé le nom. L'idée du jeu à l'intérieur que j'avais piqué à Strategy and Tactics, c'était mon idée aussi. Et les premiers jeux qui ont été dedans, bah, c'était les miens. Et donc, oui, bah, on a commencé ça. Et puis après ça, après le premier jeu et stratégie, j'ai créé la fédération. Après la fédération, j'ai créé Casus Belli. Et puis après, tout a continué. Et puis tout s'est développé. Voilà quoi. Mais ça, si tu veux, c'est les racines fondatrices du truc. Et tout ça a commencé quand j'étais petit en Angleterre et que j'avais acheté mes premiers wargames. Quoi.
Oui, donc c'est le jeu a une place dès le départ. Et à ce niveau-là, par la suite, donc est-ce que l'écriture, en fait, de, par exemple, de scénario ou la réflexion autour de la façon dont le jeu va s'agencer, et l'écriture en BD, par exemple, et la scénarisation, est-ce qu'il y a des différences ? Est-ce que ça obéit un petit peu au même mécanisme ?
Non, c'est totalement différent. Quand tu veux faire un jeu, il faut que tes mécanismes soient beaux et fluides et fonctionnels. Et puis il faut que tu répondes au cadre éventuel, si c'est une commande, au cadre éventuel de ce que la personne veut, ou de ce que toi tu veux, si c'est un jeu que tu veux sortir. Si c'est un jeu de rôle, c'est complètement différent, parce que là, il faut que tu travailles sur le système ou pour le système, comme j'ai fait pour Gary et compagnie. Et si c'est une BD ou un roman, tu travailles pour toi. Voilà.
Et donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore écrit de romans, de nouvelles
En fait, les chroniques, à la base, c'était un roman. J'avais commencé à écrire les trois premiers chapitres aux États-Unis, et puis ils étaient super bien, j'étais content et tout, et puis je les ai effacés. C'était un Apple IIe, tu sais, c'était les trucs de sauvegarde étaient foutus si jamais c'était... Si le courant se coupait, c'était foutu, quoi. Donc là, c'était foutu. La sauvegarde avait merdé. J'ai perdu les trois trucs. J'ai jamais pu les réécrire. Et en fait, c'était le début des chroniques en roman est devenu la fin des chroniques en papier. C'est-à-dire, c'était... le numéro 0, en fait, après la fin de la série qui était au 14 ou 15, je sais
plus. J'ai plus.
Enfin, un truc comme ça, ça finit au 14 ou 15, et après, t'as le 0 qui commence. Alors, en fait, le 0 était le premier. C'est ce que j'avais écrit en premier. Et moi, quand j'étais petit, j'écrivais des nouvelles de SF, des romans, des trucs comme ça.
Ouais, finalement, c'est l'écriture plutôt BD qui est.
Ah non, j'écrivais vraiment.
Ouais, mais par la suite, enfin, ce qui a été réalisé et publié, ça a été plutôt le côté BD.
Bah, j'ai
finalement
fait plein de BD, oui. Ouais. Je dois en être une soixantaine,
un peu comme ça. Un certain nombre.
Pas que les chroniques. Hein,
non, effectivement.
Toute la gamme, il y en a une soixantaine, un peu.
Et comment ça se passe, justement, au niveau de votre façon de travailler avec les différents dessinateurs?
En général, j'ai le dessinateur à côté de moi. Je prends une page blanche, je commence à faire un découpage des cases, des planches, je place un peu les personnages, la tête à Toto, machin et tout, des prétextes, j'explique la page. Oui, donc je commence ce découpage, je mets des prototextes, etc. et tout, puis on parle de la page avec le dessinateur, on regarde la page, est-ce que c'est bien comme ça, est-ce qu'il voit ça d'une autre manière, est-ce qu'on change les trucs, et après il fait le crayonné, on regarde le crayonné, ça va pas, est-ce qu'il faut changer ou pas, c'est compréhensible ou pas. Après, il passe à l'ancrage, et à la fin, quand il y a toutes les 48 pages, je réécris absolument tout l'album d'un coup, et c'est fini.
Donc c'est un travail qui se fait de manière assez fluide.
J'aime bien travailler avec le dessinateur en même temps que moi. Mais je suis plus scénariste, metteur en scène, que scénariste tout court. Tu vois. Je ne vais pas écrire les 48 pages, te les balancer en disant « Coucou, on se revoit l'année prochaine ». Non, ça ne m'intéresse pas.
C'est vrai
bien qu'il y ait un truc. Et puis, souvent, les dessinateurs préfèrent quand ils peuvent dire quelque chose, avoir un input et tout. Ça dépend. Hein. Chaque personne est un cas particulier. Et on ne travaille pas exactement de la même manière avec aucun dessinateur. Quoi. Chacun...
Là, enfin, notamment dans ces dernières années, il y a tout le avec l'apport du numérique, le travail à distance un peu. Est-ce que ça a changé des choses, vous, dans votre façon de travailler ou ça...
Pas trop. C'est pas évident de faire une planche par numérique. C'est pas comme si... tu le vois, on se voit par les petites caméras, on se Skype. C'est faisable, hein, mais bon, c'est pas un truc... c'est pas comme si la personne est à côté, tu vois ce que je veux dire.
Oui, il y a une dimension humaine peut-être qui manque peut-être.
Oui, puis les échanges sont pas forcément les mêmes, même si c'est bon. Mais
justement, pour en revenir un petit peu à l'aspect un peu numérique, on va dire, dans la façon d'aborder aussi le scénario et le. Est-ce que le voilà, toute l'arrivée des réseaux sociaux, tout ce qui se passe autour de la façon dont c'est mis ça se met en place, est-ce que ça a une influence sur votre travail, sur la façon dont vous l'appréhendez?
Ah bah, l'arrivée du numérique, oui, tu te fais pirater au coin d'un bois, tu tapes ta page sur Google, sur ton truc, et immédiatement en bas, tu vois PDF, chronique de l'année noire. Merci Google, c'est sympa. Ils auraient au moins pu shoot ça bien planqué à la 5e ou 10e page, que le mec ait un peu besoin de chercher, tu vois. Alors, effectivement, si tu vends beaucoup, c'est un peu emmerdant. Si tu vends pas beaucoup, c'est catastrophique. Parce que le pauvre gars qui a besoin d'en vendre 3000 exemplaires pour ne serait-ce que recommencer le suivant, si à cause du piratage, il n'en vend pas 500, il fait pas de deuxième album. Et le gars qui arrivait à peine à vivre avec ce qu'il fallait, parce que crois-moi, il faut en sortir beaucoup des albums pour bouffer, hein, qui arrivait à peine à vivre de ça, il n'arrive plus à peine à en vivre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend un boulot, il bosse deux fois moins vite, etc. Et tout. Oui, ça a une influence. C'est comme si d'un seul coup, sur ton salaire, on pouvait prélever, n'importe qui passe pouvait te prélever un centime d'euro à chaque fois. Quelques centimes, c'est pas grave. Mais quand tu as des milliers de personnes qui font ça, ça commence à devenir pénible. Alors, ça peut être assez pénible, quoi, ouais, voire catastrophique pour certains. Si tu vends pas beaucoup, t'es vraiment dans la merde, quoi. C'est pareil pour la musique, c'est pareil pour les films, c'est pareil pour tous les trucs, quoi. C'est pas parce que c'est sur Internet que des gens ont pas payé énormément pour produire l'objet. Alors, si les artistes ne peuvent plus vivre de leur art, comme disait Bajram, il n'y aura plus que les riches qui pourront se payer le luxe de créer d'avoir un violon dingue, comme dans le temps.
On va revenir au mécénat.
tu vas revenir au mécénat ou alors tu vas revenir au grand noble qui écrit ces conneries, La Fontaine, la comtesse de Ségur, tous ces gens-là qui pouvaient se permettre de faire ça, vu que de toute manière, ils n'avaient pas à faire bouillir la marmite. Mais le gars qui fait bouillir sa marmite, si tu veux, Internet et ce genre de comportement peut le tuer. Et bon, bah voilà. Est-ce un bien, est-ce un mal, quand tu vis de ça, oui, c'est pas terrible, quoi.
Bon, il y a aussi des évolutions positives, peut-être, dans le... Dans la façon d'aborder le travail. Enfin, je me place plus sur l'aspect travail, peut-être facilité à communiquer, ou ça change pas grand-chose.
Ouais, tu peux skyper avec, avec ton copain, avec ton dessinateur, si jamais, ou avec ton scénariste, si jamais tu as un truc. Oui, ça peut dépanner, ça, mais si tu veux, pour ce qui est de... Pour ce qui est de l'histoire, j'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin de la vie des autres, j'ai pas besoin de... Si tu commences à te préoccuper de la vie des gens quand tu fais ou quand tu crées quelque chose, tu fais plus rien. Tu vois, par exemple, je lis jamais mes critiques. Mais jamais. Le mec qui prend son pied pendant 8 jours à me massacrer éventuellement sur un truc ou sur une chronique, le pauvre, il fait ça pour rien, je la lirai jamais.
Oui, enfin, il y a des différentes. C'est vrai qu'il y a autant d'approches aussi que d'auteurs finalement vis-à-vis de ça, parce que certains vont peut-être être peut-être davantage touchés.
Ah bah, il y en a que ça va miner complètement.
Ouais, c'est ça.
Il y en a, ils vont lire ça. Après, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est il faut qu'ils aillent sur ce qu'écrit le mec, puis qu'ils regardent si c'est un flingueur professionnel ou si c'est un avis réel. Parce qu'il y a des flingueurs professionnels, quoi. Je ne suis pas connu, je vous ai. Tenez, vous allez voir ce que vous allez prendre. Ok, mais si tu t'aperçois en allant dans l'historique du mec qu'il y a plein de trucs comme ça, bon, bah laisse tomber. Mais bon, c'est même pas la peine. Mais de toute manière, tu sais, un bouquin, je réponds jamais non plus. Pourquoi ? Parce qu'un livre, ou une œuvre, ou quoi que ce soit qu'on fait, un morceau de musique, un film ou un truc, c'est comme un enfant. Tu l'as élevé, il a 18 ans, tu lui ouvres la porte de ta maison, et puis bah, il s'en va tout seul dans le monde. Il est fini. Tu peux plus rien faire. Et voilà. Une BD foirée, je suis pas vendu avec pour expliquer pourquoi elle est foirée. J'ai réussi ou j'ai pas réussi. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, oui, bien sûr.
Elle est bien ou elle est pas bien. Une musique, elle est bien ou elle est merdique. Un roman, il est bien ou il est pourri. Mais voilà, mais on n'est pas vendu avec, on n'a pas à s'expliquer.
Non, bien sûr, on l'a vu de sa vie.
On a fait l'enfant, on a réussi, super. On a foiré, bah tant pis. Mais bon.
Ce sont des choses qui arrivent, et puis voilà. L'œuvre vit aussi.
Donc, si tu veux, c'est une des raisons pour lesquelles je ne défends jamais rien de ce que j'ai pu écrire. Par contre, attaque-moi moi directement, ça va être une autre paire de manches. Mais une œuvre, un truc que j'ai fait, jamais je ne le défendrai. Soit il est défendable de lui-même, soit bah. Puis après tout, hein, on a le droit de pas aimer non plus.
Hein. Exactement.
Mais dans ce cas-là, vous faites même pas chier à lire, les mecs. Bon, enfin bref.
Et donc, par rapport à ce qui se fait actuellement, en termes de, par exemple, dans l'environnement un peu BD, scénario, etc., est-ce qu'il y a des choses que vous avez notées, des choses qui peuvent éventuellement vous inspirer, donner des idées ?
Je serais étonné, je ne lis rien. C'est-à-dire que globalement, si tu veux, tout ce qui... J'ai les grands classiques, hein, j'ai les trucs... j'ai évidemment les Tintins, les Astérix, les machins, tous les trucs de ma jeunesse. La plupart des... Les Gaston Lagaffe, les trucs de Gottlieb, enfin tous les trucs de Druyet, tous ces trucs-là. Si tu veux, j'ai une énorme collection de BD. Mais sur ce qui sort là maintenant... À moins que tu viennes me dire, tiens, il y a ça qui est vachement bien, ou je te donne ça, je ne les lis pas. Et en fait, je m'en occupe. Mais tu sais, il y en a très peu hein, qui ont la curiosité de regarder tout ce que font les autres, etc. Et tout. Alors d'abord, je vais te dire, il sort 5 à 6 000 BD par an maintenant. Donc, inutile de te dire que même si sur ces 5 à 6 000, il y en a 500 qui sont des réimpressions, j'ai pas les moyens d'acheter 4 500 BD, ni la place pour les loger. Donc, bah, je m'en occupe pas, quoi. Voilà. Alors, si t'as un dessinateur qui a envie de bosser avec moi, Je vais regarder ce qu'il fait. Là c'est autre chose. Mais autrement, à moins vraiment qu'un copain me dise tiens, tu devrais lire mon truc, etc. et tout, je le ferai pas. Même que moi, je dirais jamais à mes copains ou par exemple à Loisel qui était mon parrain en BD, c'est lui qui m'a fait commencer dans Pilote Charlie avec entre autres le pauvre Tignus là. Et puis. Et puis Bismuth, j'avais deux pages là-dedans, c'est le moment où j'ai commencé la BD, ça devait être en 86, 87, je sais plus, le spécial Loisel. Je vais jamais lui dire, lis mes bouquins ou des trucs comme ça, tu vois.
Enfin, il n'y a pas de nécessité pour non, autant, mais
on a juste des rapports amicaux, mais c'est pas pour autant qu'on va lire forcément ce que fait l'autre, quoi. Tu vois. Et en plus, tu as aussi un peu une manière peut-être de préserver ton univers, je sais pas. Je sais pas, mais tu sais, il y en a tellement maintenant qu'on n'a plus le temps de réellement.
Même en tant que simple lecteur, finalement, uniquement lecteur, on peut pas de toute manière.
Bah, c'est 5 à 6 000 par an, tu te rends compte.
Sans parler des romans et autres par ailleurs. Mais,
alors, faut vraiment. Tu peux pas tout voir, quoi. Alors, bon, après.
Bon, mais y a des choix qui tiennent aussi à nos goûts et à. Et donc, en termes de projets éventuellement à venir. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut s'attendre à voir
Ah bah là, tu as... Bah, comme d'habitude, tu as une chronique qui va arriver sur la suite, là, la deuxième époque. Le 24 novembre, tu as Greldinar qui enlève le haut. Voilà, première fois, tu le verras depuis... Il y a une page où on s'était amusé à le faire, où il enlevait le haut, mais puis à chaque fois, c'était caché par quelque chose. Là, il enlève
là,
vraiment.
D'accord. Voilà.
Ça rappelle la pub des années 80, hein. Demain j'enlève le haut, demain j'enlève le bas, etc. Et tout. Mais bon, mais c'est pas mal, l'éditeur qui a trouvé ça, c'était rigolo. Donc voilà, donc le 24 novembre, t'as Greg Linnard qui enlève le haut. Y en a d'autres avec un jeune dessinateur portugais, voilà. Y a d'autres trucs qui vont sortir à côté, y a un jeu de rôle qui est en cours de création. Qui sera aussi sur l'univers des chroniques. Il y a des romans qui vont être faits à partir des chroniques. C'est pas moi qui vais les faire à 100%. C'est quelqu'un qui va les faire. Après, je regarderai si.
Ce sera en termes de suite ou d'exploration un peu parallèle.
Non, c'est juste romancer le truc. Bon, mais tu sais déjà passer de 48 pages à 320 pages, ça fait déjà une différence. Bon, ça veut pas dire qu'il y aura 24 volumes, hein, mais a priori, il devrait y avoir 3 volumes, quoi, tu vois, quelque chose comme ça. Mais tu mets quand même beaucoup plus de choses dans un roman que dans une BD. Pas forcément, mais souvent. Et puis voilà, quoi.
Et en termes d'envie, peut-être, ou de choses pas encore réalisées que vous souhaiteriez...
Le seul truc que j'aurais aimé faire, que j'ai jamais fait, c'est faire un film. Voilà, ça c'est vraiment le truc qui m'a... C'est le dernier truc que j'ai... qui était sur ma liste et que j'ai jamais fait. Est-ce que je... Voilà, je sais pas.
L'opportunité se présentera peut-être.
Je ne sais pas. Il y a quelques années, en 87, après la sortie du jeu Micro, il y avait quelqu'un qui voulait faire Les Armateurs, celui qui avait fait Kirikou, et puis Cryo voulait faire un titre, voulait faire les chroniques en film d'animation, mais à la fin, j'ai été obligé de dire non, parce que si tu veux, la seule chose qu'il gardait, c'était le titre.
Ouais. Ah, c'est Michel Osso.
C'est pas lui. Tel grand patron, là. C'est pas la personne qui faisait les films,
mais d'accord. Ouais.
Le chef des armateurs, je sais plus. Ouais.
Il voulait simplement reprendre finalement un peu la marque.
Bah, on avait commencé dessus. Non, c'est pas ça. À chaque fois, il voulait, oui, mais là, tu comprends le héros. Bah oui, le héros, c'est pas Sainte-Thérèse d'Avila, c'est clair. Ouais. Oui, il est un peu pourri, il est capable du pire comme du meilleur, souvent du pire. Non, il n'a pas de remords, il passe pas sa vie comme Elric à chialer. Parce qu'il a fait un truc vilain, etc. et tout. Bon, voilà quoi. Mais donc, si tu veux, c'est. Eux, ils ne comprenaient pas. Mais ce qui est fascinant, c'est ce côté. Il y a un truc qui marche, il y a un truc qui se vend à des centaines de milliers d'exemplaires. Ouais. Alors, on va le vider de toute sa substance et on va faire autre chose à la place parce que nous, on sait mieux. Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi tu as besoin de moi, quoi? Tu vois ce que je veux dire?
C'est assez mystérieux.
Voilà. Et quand tu vois ce qu'ils ont fait de Prince Vaillant, Je sais pas si tu te rappelles les dessins géniaux de Prince Vaillant, les bouquins, c'était super, c'était rigolo, c'était dans la... Et quand tu vois la merde qu'ils ont pondu en film, bah, je suis désolé, je préfère perdre beaucoup d'argent, ce que j'ai fait, que de
voir l'œuvre dénaturée
avec un truc complètement pourri. Quoi. Alors, peut-être qu'un jour, quelqu'un fera ça correctement. Ce sera peut-être pas de mon vivant, ça sera peut-être de mon vivant, j'en sais rien. Mais c'est hors de question que, je veux dire... Voilà, c'est ce qu'il y a là-dedans, plus ou moins. Mmh. Et puis, basta, quoi. Sinon, bah, t'achètes les schtroumpfs et tu fais les schtroumpfs. Voilà, c'est...
Effectivement.
C'est tout, quoi, tu vois, c'est... bon.
On verra. Bah, merci en tout cas beaucoup pour toutes ces réponses. Et bah, puis... à bientôt peut-être pour de nouvelles aventures et à l'occasion des prochains albums... à venir et peut-être un film un jour.
Oh non, ça m'étonnerait.
Merci. Mais encore.
Allez, merci à vous.